I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Les couilles sur la table, épisode 41. Deuxième partie du cours particulier avec le philosophe et penseur Paul B. Pressel. Dans la conversation que vous allez entendre, nous allons notamment discuter des liens entre la destruction de la planète et le patriarcat. Nous allons discuter de la masculinité comme usage légitime de la violence, de comment est-ce qu'on peut faire pour lutter pour que tous les corps vivants soient reconnus dans leur souveraineté. Dans la première partie de cette conversation, nous avons vu comment nos institutions produisent de la différence binaire. D'un côté, le féminin, de l'autre, le masculin. Paul B. Preciado est un homme trans et il a beaucoup écrit sur cette expérience. Ainsi, dans l'une de ses chroniques, publiée dans Un appartement sur Uranus, il raconte à quel point il est compliqué aujourd'hui encore de changer d'état civil. Lui, par exemple, il voulait que son nom soit changé sur ses papiers d'identité, de Béatrice Preciado à Paul B. Preciado. Anecdote révélatrice, le juge qui a finalement accepté sa demande lui a donné une grande tape dans le dos en lui disant « Bravo, vous êtes très réussi ».
Devenir trans au regard du système médical, de la science et du système juridique, c'est passer en fait un examen de masculinité. C'est là qu'on comprend, on commence à comprendre pas mal de choses, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire socialement être un homme? Parce qu'effectivement, il faut être clair, hein, accéder à la masculinité dans notre société et tout simplement monter dans l'échelon social et politique. Donc effectivement, évidemment, c'est normal, entre guillemets, que ça soit vraiment... médicalisé, pathologisé, qu'il soit vraiment qu'il y a presque comme un processus punitif qui se met en place, parce qu'on ne pourrait pas non plus accepter de manière généralisée que tout et n'importe qui, en fait, que toute personne assignée femme à la naissance, si toutes les femmes, au-delà de leur désir, au-delà de leur corps, si toutes les femmes disaient « Mais non, mais attendez, mais on gagne moins en tant que femme, on est soumise en fait à un certain nombre effectivement de violences, des formes systématiques de violences », il faut insister. C'est-à-dire que moi je veux bien en fait qu'on continue à se dire femme, etc., mais... Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, aujourd'hui, être femme dans une société dans laquelle la masculinité est encore définie comme l'usage légitime de la violence, et donc, évidemment, dans laquelle les femmes sont l'objet de cette violence. Donc, moi, je pense qu'il faudrait un mouvement, mais très, pour le coup, en fait, très, très, très dur, un féminisme beaucoup plus radical, parce qu'en fait, c'est mon expérience aussi en tant que trans, c'est-à-dire, j'étais très radical quand j'étais lesbienne, mais néanmoins, j'ai habité dans la boule, en fait, hein, dans une société queer très lesbienne radicale, et donc voilà, enfin radicale, je dis radicale dans le sens esthétique, on était esthétiquement radical, hein. Mais politiquement, ben voilà, on faisait ce qu'on pouvait. À ce moment-là, j'avais une image, on va dire, très critique de l'hétérosexualité patriarcale, mais en même temps très lointaine. Enfin,
oui, vous n'étiez pas directement confronté.
Non, ouais, exact.
Et maintenant,
enfin, si, j'étais confronté à la lesbophobie, j'étais confronté à la violence, mais quelque part, en fait, je vivais en fait à l'intérieur d'un monde lesbien, et donc du coup, j'étais protégé par cette, on va dire, en fait, comme une espèce de, si vous voulez, des ghettos, des survivances, en fait, des résistances, qui étaient vraiment pour moi importants et intéressants. Mais le problème, c'est que quand vous commencez cette traversée et que des coups, bon, voilà, votre corps change et bon, voilà, vous voyez, ploum, de l'autre côté de la frontière, maintenant t'es un homme, ah bah bonjour.
C'est-à-dire que les gens vous disent bonjour monsieur.
Voilà, et maintenant je me retrouve, je suis souvent confronté à des conversations qui sont inimaginables.
Ça me fait penser à ce que nous racontait Viken, qui est un homme trans, il est venu dans le 12e épisode des couilles sur la table,
oui.
Et il nous disait que depuis qu'il était reconnu comme un homme dans le monde des hommes, etc., il entendait des conversations, mais que même dans ses pires cauchemars, il n'aurait pas imaginé, en fait.
C'est
des conversations dans les vestiaires du club de gym, ou d'un chauffeur de taxi et tout. Vous aussi, vous avez fait la même expérience.
Bien sûr que j'ai fait la même expérience. Mais souvent les hommes, en fait, ils vont parler de la sexualité des femmes en disant, voilà, celle-ci, je l'ai baissée, elle est vraiment une salope. Elle était la première soir, on a pu la baisser, hein, mais là, tu peux l'appeler, tu verras. Enfin, la manière dans laquelle... Ou bien, en fait, parfois, les hommes cis, hétéros, en fait, ils parlent souvent des femmes. Ça m'a fait beaucoup rigoler, en fait, comme si les femmes étaient vraiment des êtres, mais vraiment totalement étranges. Ouais. Voilà, comme si c'était vraiment des... Parfois, ils disent, ouais, parce que tu sais, les femmes... Là-bas. Jusqu'au moment, parfois, où j'ai dit, non, mais attendez, les gars, on va tout arrêter là, hein, parce que moi, j'étais une femme jusqu'à pas très longtemps, et tout ce que vous dites, en fait, c'est n'importe quoi. Et...
Oui, mais... comme si c'était une espèce, encore une fois, oui, différente, mais, quoi. Des créatures
sûr,
radicalement différentes
façon,
et tout.
Mais de toute façon, mais c'est ça que cette épistémologie de la différence sexuelle a produit.
Ça crée aussi.
Qu'effectivement, en fait, pour les hommes, soyons clairs, les hommes sont encore les seuls sujets politiques à être reconnus en tant que souverains de manière totale par nos régimes politiques hétéropatriarcales. C'est comme ça. Et en fait, les femmes sont encore dans une position subalterne. C'est pour ça, en fait, que justement, il y a ces renouveaux du féminisme aujourd'hui. Mmh. Et c'est pour ça, en fait, que il faut. Les jeunes se disent, en fait, parfois, ça me fait rigoler, en fait, quand il y a des gens qui disent non, mais maintenant, en fait, on n'a plus besoin du féminisme. Mais attendez, mais. Bien au contraire, c'est plus que jamais, puisque en fait les conditions dans lesquelles se trouvent les femmes, justement dans des sociétés apparemment démocratiques, sont terrifiantes. Si on pense en fait qu'il y a encore des femmes de manière quotidienne qui se font tuer parce qu'elles sont femmes, pas par des autres raisons, mais parce qu'elles sont femmes. À ce moment-là, est-ce qu'il
donc
faudrait dire
est-ce
qu'il faudrait c'est quoi si enfin, je vais être très radical, mais il faudrait interdire la masculinité. Et là, vous direz en fait, justement. Parce que la masculinité, en tant que, c'est-à-dire cette définition de la masculinité souveraine par l'usage légitime de la violence, y compris sur les femmes, sur les personnes non blanches, sur les animaux, etc., sur les enfants, elle est nécropolitique et délétère. Et donc, voilà, il faut finir avec ces régimes politiques.
Il faut
politiques.
En finir avec la masculinité.
Après, c'est pour ça, en fait, que je vous dis aussi, je suis aussi, comme je disais tout à l'heure, par rapport au corps féminin avec utérus, moi aussi, je suis un sujet paradoxal. Parce que, évidemment, j'ai changé de sexe, soi-disant. Enfin, en tout cas, mes papiers, ils disent que j'ai changé de sexe. Et maintenant, je me retrouve dans cet endroit de la masculinité, alors que je suis très critique par rapport à la masculinité normative.
Oui, donc ça vous donne un point de vue...
En tout cas, c'est sûr que ce qui m'intéresse, moi, en tant que philosophe, c'est justement traverser ces positions, être dans cette position-là. Je pense qu'il n'y a pas une autre position plus intéressante. Chaque corps, en fait, pourrait trouver une position extrêmement intéressante dans laquelle c'est situé. Mais pour moi, c'était celle-ci, ouais.
Il y a un symptôme de ce binarisme et aussi de la domination masculine qui est la transphobie, qui existe, donc on l'a vu, à un niveau étatique, mais qui, évidemment, existe aussi dans tout le corps social et dans la vie quotidienne, etc. Et là, je pense à l'agression de Julia, qui a eu lieu en mars dernier. Donc Julia, c'est une femme transgenre. Elle a été insultée, frappée, giflée dans la rue. Elle s'apprêtait à prendre le métro, en plus symboliquement place de la République, au cœur de Paris. Et donc, elle traverse la foule, qui est en majorité masculine. Et là, il y a plusieurs individus qui l'agressent. Je vous propose qu'on écoute un extrait de son récit.
Il faut savoir que sur la vidéo, il n'y a qu'une partie de l'agression qui a été filmée. L'individu que vous voyez sur la vidéo qui m'ébriffe les cheveux, juste avant ça, m'a mis une gifle. Un autre individu a sorti son sexe devant moi en rigolant, en le secouant, en me demandant de le satisfaire. J'ai regardé un de mes agresseurs en lui disant qu'il ne me faisait absolument pas peur. Et je pense que c'est ce qui a provoqué sa réaction très violente par la suite. Ça fait partie, malheureusement, un petit peu du quotidien des personnes transgenres.
En fait, en écoutant ça, bon, évidemment, on est horrifié en plus quand on voit les images de cette agression et tout, mais en même temps aussi de comment ils font ça. C'est-à-dire, donc, il la gifle, il la frappe et ils lui disent « Non, mais en fait, toi, t'es un homme, etc. » Et il sort son sexe en rigolant et tout. Et je me dis « Mais de quoi c'est le symptôme, ça ? C'est quoi cette panique ? Comment est-ce qu'on peut expliquer que les gens se révèlent tellement agressifs que ça les rend fous furieux, en fait, quand ils sont confrontés à ça ?» C'est peut-être un peu naïf comme question, mais ça revient aussi tout le temps dans mes émissions. Je m'interroge vraiment sur le sens de la violence, quoi. Qu'est-ce que c'est ?
Justement, en fait, d'une part, je pense que là, ça montre bien, justement, quand je parlais tout à l'heure, en fait, de ces définitions de la masculinité souveraine par rapport à l'usage légitime de la violence. C'est que là, justement, des hommes, apparemment des hommes cis, en fait, se sont confrontés. Il voit quelqu'un qui peut traverser justement cette frontière du genre et des coups, en fait, ils rentrent dans une affirmation identitaire de la masculinité. Et ce qu'on voit là, justement, c'est un mouvement masculiniste identitaire. Et
donc comment... je sors mon pénis, je secoue et je te dis
exactement.
Satisfais-moi.
Et je sors mon pénis, ça veut bien dire, en fait, justement, je vais montrer cet objet-là qui est considéré par la médecine comme les lieux d'incarnation de la masculinité, mais aussi, ça veut dire, en fait, qu'ils sont en train de prendre la personne trans pour une prostituée, pour une travailleuse de sexe. Et donc, du coup, ce qui arrive très souvent, c'est que, justement, et surtout dans les sens, en fait, des trans qui vont vers la féminité, elle est hypersexualisée. La redéfinition de la masculinité souveraine par rapport à l'usage, cet usage de la violence, c'est fait pas uniquement par la violence, par n'importe quel type de violence, c'est aussi par la violence sexuelle. Et donc là, on voit très bien aussi l'importance du viol. C'est-à-dire que les viols ne pas, c'est un peu comme arrive avec la transsexualité, c'est-à-dire que les viols, c'est pas du tout en fait une exception, mais c'est la technique fondamentale des sexualisations. C'est que en fait, pour produire la féminité en tant que féminité et la masculinité en tant que masculinité, les viols, c'est le meilleur instrument, puisqu'en fait, c'est à travers la transformation de la sexualité en violence, et notamment de l'hétérosexualité en violence. Je sais que c'est dur, mais c'est notre histoire. On a cette histoire, et moi je pense que il faut aussi. Moi, ce que j'attends aussi, c'est pas uniquement en fait un mouvement des hommes de s'identifier. Il n'y a pas uniquement MeToo des côtés des femmes, mais qu'il y a aussi un mouvement des hommes qui disent je ne veux plus m'identifier en tant qu'homme par l'usage légitime de la violence. Je veux une autre définition de la masculinité. Et donc voilà, un mouvement des désidentifications, pas identitaires comme celui-là qu'on a écouté en fait dans l'agression à Julia, mais en fait un mouvement des désidentifications par rapport à la masculinité souveraine et des désidentifications par rapport à l'hétérosexualité.
Vous rappelez ce régime-là d'hétérosexualité, donc vous dites avec Monique Wittig, qui a écrit ça aussi dans les années 70, que l'hétérosexualité, c'est pas seulement une histoire de désir, mais c'est un régime politique, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Bon, Monique Wittig, c'est quelqu'un de très important, en fait. Elle a été très importante pour nous toutes, en fait, quand on a été, justement, dans les années 80-90, en fait, pour le féminisme queer, alors qu'elle était très peu lue en France, elle a été très, très lue aux États-Unis. Elle est partie aux États-Unis, et c'est aux États-Unis dans les années 80, où elle a écrit « Et les lesbiennes ne sont pas des femmes », un texte très important, un corps sur la désidentification. Et aussi, en fait, elle a fait quelque chose d'extraordinaire. Ce qu'elle a dit, c'est que l'hétérosexualité, ce n'est pas une pratique sexuelle. C'est donc quand je vous demande, en fait, est-ce que vous êtes hétérosexuel, c'est pas, je ne parle pas du tout qu'est-ce que vous faites au lit, avec qui vous couchez, comment. Non, ce n'est pas ça, en fait. L'hétérosexualité, c'est un régime politique. Donc, pour le coup, c'est la même chose, c'est une épistémologie. C'est un régime des savoirs. Une fois que vous vous définissez en tant qu'hétérosexuel, à partir de ce moment-là, il y a tout un ensemble, en fait, des chorégraphies sociales et politiques qui se mettent en marche. Mais en réalité...
Vous pensez à quoi, par exemple ?
Par exemple, en fait, est-ce qu'on peut être hétérosexuel ? Est-ce qu'on peut être une femme hétérosexuelle et être, justement, extrêmement masculine ? Bien, dans les régimes de l'hétérosexualité tels qu'on les connaît, pas tellement, puisqu'en fait, vous allez être censuré.
Ou considéré comme pas désirable ou
exactement.
Pas, pour reprendre les mots de Virginie Despentes, comme exclu du marché à la bonne meuf.
De la bonne meuf, exactement. Mmh. C'est exactement ça. Donc, des coups, si vous voulez, c'est les désirs en lui-même, en fait, qui est construit par un régime politique. À partir du moment, en fait, où on a fait une taxonomie des corps encore masculins et féminins, et qu'en fait, on a pensé que tout rapport entre les corps était justement voué à la reproduction sexuelle, bah oui, à partir de ce moment-là, bah, y a la possibilité d'un rapport entre des hommes et des femmes. Mais en réalité...
Et encore une fois, c'est vu comme naturel, comme naturalisé, puisque visant la reproduction,
bah oui,
etc.
Mais oui, mais aucun acte de reproduction n'est naturel. C'est-à-dire que, y compris, en fait, tomber enceinte, accoucher, etc., c'est les conséquences d'une certaine chorégraphie politique. C'est-à-dire qu'aucune femme... Pour appeler femme, est-ce que la société binaire appelle femme, c'est-à-dire aucun corps doté d'un utérus est maternel par lui-même, en dehors d'une relation. Et cette relation ne doit pas forcément passer par l'hétérosexualité.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Victoire Tuaillon du Cœur sur la Table et des Couilles sur la Table. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 000 lieues sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie quand elles étaient ados. À l'époque, elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire personnelle, Caroline Potier, qui est devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment mieux écouter les survivantes et les survivants d'inceste? Comment la police et la justice pourraient enfin mieux les traiter? Comment vivre avec? Et les agresseurs? Qu'est-ce qu'on en fait des agresseurs? Ce documentaire est beau, est intelligent, est bouleversant, et je pèse mes mots, il est d'utilité publique. Car en France, vous le savez sans doute, une personne sur 10 est victime d'inceste. Ça veut dire que nous sommes tous concernés dans notre métier ou dans nos relations personnelles. Dans cette série, vous apprendrez donc ce que nous pourrions tous et toutes faire si on veut un jour enfin éradiquer l'inceste. Alors pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair dans le podcast Le Cœur sur la Table.
Quel lien est-ce qu'on peut faire entre cette domination là dont on parle, domination du régime hétéronormatif, du patriarcat, et la destruction écologique telle qu'on est, la catastrophe écologique telle qu'on la connaît actuellement?
Je pense qu'il y a un lien très important, parce qu'en fait, pour moi, même au-delà de la masculinité, la question c'est comment on définit la souveraineté. Et la souveraineté n'est pas le pouvoir en soi, hein, c'est la puissance. Mais cette puissance, en fait, vient justement, comment est-ce qu'on la définit? Est-ce qu'on la définit par rapport, en fait, aux soins? Par rapport, est-ce que, par exemple, est-ce qu'on considère qu'un corps vulnérable est un corps souverain? Ou est-ce qu'on considère qu'uniquement un corps qui utilise des techniques de pouvoir et des techniques de violence est un corps souverain? Donc, comment on a défini historiquement dans ces régimes que moi, avec Foucault et avec Achille Nembe, j'appelle nécropolitiques. C'est-à-dire la forme des gouvernements la plus historiquement, la plus répandue, en fait, dans la planète, malheureusement, y compris, en fait, dans les régimes apparemment non capitalistes, donc dans les communismes aussi. Comme on a pensé la souveraineté uniquement en rapport à l'usage des techniques de la violence, effectivement, notre rapport, y compris avec la planète, est un rapport de violence. Et donc, d'exploitation, d'expropriation et d'extermination. Moi, je pense qu'on est dans un moment absolument crucial. Hein. Et c'est pour ça que pour moi, je n'aime pas me dire, en fait, philosophe du genre, en fait, même si, bon, voilà, j'ai commencé par faire ça, mais...
Oui, mais vous réfléchissez à plein d'autres objets et vous faites du lien, encore une fois, entre tous les corps vivants, en fait.
Oui, mais je dis ça, en fait, c'est parce qu'en fait, ils finissent par, qu'on en est féministe ou transféministe, ils vous disent, finalement, occupe-toi un peu des femmes, des trans et tout, et la vraie politique, non, on continue à la faire nous, en fait. Mais le problème, c'est que soi-disant, les gens qui sont occupés de la vraie politique, la seule chose qui les a intéressés jusqu'à maintenant, c'est la production. C'est la production. Et la production, précisément, pensée en tant que expropriation totale des ressources de la planète. Mais il va bien falloir redéfinir qu'est-ce que ça veut dire, en fait, vivre sur cette planète, et donc inventer des techniques, des productions, des souverainetés qui ne soient pas nécropolitiques, qui ne soient pas définies par l'usage de la violence. Et ça, on ne sait pas encore grand-chose. Parce que, y compris dans les régimes communistes, par exemple, les modèles... Des subjectivités est un modèle de virilité ultra puissante. Mais par contre, comment serait en fait une politique de la terre, une politique terrienne, comme on dit dans la Halleway au Bruno Latour, qu'est-ce que serait cette politique si on place au centre de cette politique les corps vivants vulnérables et pas du tout en fait les corps virils ultra puissants?
Il y a maintenant plusieurs questions que j'aimerais vous soumettre, plusieurs remarques que je me suis posées à la lecture de vos travaux. Donc moi, j'ai aucune certitude sur ces sujets-là. Mais en fait, j'ai toujours peur que les idées les plus novatrices et les plus révolutionnaires, elles soient récupérées, elles soient retournées contre nous, par les pensées réactionnaires. Et donc, j'aimerais qu'on imagine comment est-ce qu'on va contrer ces arguments-là. Par exemple... ce que vous écrivez sur la testostérone,
oui.
Parce que dans Testo Junkie, c'est un essai où vous racontez les effets que ça a sur vous, la testostérone. Donc au début, vous administrez des dosages qui sont sous l'effet seuil, c'est-à-dire que ça va pas déclencher la production de caractère sexuel secondaire comme la pilosité, le changement de masse musculaire, etc., le changement de votre voix. Mais vous reconnaissez que ça a des effets sur comment vous vous sentez, votre personnalité,
totalement.
Vos émotions et tout. Et à la fois, un argument qui est très souvent utilisé pour justifier une masculinité qui serait plus violente, plus agressive et tout, c'est de dire « Ah oui, mais... » la testostérone, mais elle est pauvre, ils y peuvent rien, quoi. Franchement, les cerveaux des hommes et les cerveaux des femmes, c'est différent, leur corps, c'est différent, et compagnie. Donc, comment pour reconnaître ça?
Oui, c'est très intéressant, parce qu'en fait, si vous voulez, c'est un des problèmes, justement, des constructivismes féministes. C'est-à-dire que quand on a commencé à parler du genre comme une construction sociale et culturelle, on ne savait pas quoi faire avec les corps. Du coup, oui, les représentations de genre, on travaillait ça à fond, mais la question c'est, mais les corps, qu'est-ce qui se passe avec les corps? Et en fait, il y a une matérialité du genre. Et donc, évidemment que la testostérone produit des effets. Mais est-ce que ces effets sont la masculinité? Absolument pas. Est-ce que la testostérone est masculine? Non. D'ailleurs, en fait, tous les corps vivants produisent de la testostérone dans des quantités différentes. Et même, ce qui est assez drôle, en fait, si vous voulez, c'est que quand j'ai commencé à travailler sur Testo Junkie, j'ai fait une espèce de généalogie politique de la testostérone. Je me suis intéressé à comment elle avait été découverte ou inventée par
oui,
la
discours.
Oui,
c'est dans l'urine des juments et tout ça.
Oui.
Du coup, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces gens qui vont nous dire « Ah, bah, alors, vous voyez que la testostérone, ça rend plus agressif et tout. »
Non, ce que je voulais vous dire, c'est que, justement, qu'en fait, sans cette étude, une des choses que j'avais appris, qui m'avait beaucoup frappé, c'est qu'en fait, pour les médecins américains, pour les systèmes médicaux américains, il y a aujourd'hui une nouvelle épidémie en Amérique qui est un manque important de testostérone chez les hommes américains. Et du coup, en fait, il y a de plus en plus des thérapies, des substitutions en testostérone qui sont appliquées aux hommes, parce qu'on considère que justement les hommes américains sont quelque part déficitaires en masculinité. Et donc, ce qui commence à être très intéressant, si vous voulez, c'est si on commence à se dire, c'est la même chose avec notre corps. Est-ce que l'utérus est féminin? Est-ce que la féminité, c'est l'utérus? Est-ce que le pénis est un organe masculin? voyez, en fait, c'est-à-dire que les processus de production de la différence de genre, les processus politiques, donc cette anatomie politique, elle fabrique un corps. Elle va sexualiser les corps et la biologie, en fait. Et des coups, on va dire, voilà, bah, la testostérone, c'est la masculinité. Mais en fait, il y a beaucoup des hommes qui produisent un peu de testostérone, certains qui produisent plus de testostérone et d'autres beaucoup de testostérone. Et il n'y a pas, en fait, une relation des causes à effet entre ce qu'on appelle la masculinité. De toute façon, la masculinité n'existait pas en dehors d'un régime politique. Et donc, la masculinité, quand un bébé est né bien au monde, en fait, il n'y a pas de tout, il y a très peu de testostérone sur cette bébé.
Donc, sauf qu'on va déjà commencer à dire « Ah, mais regarde, comme il est colérique, c'est un vrai petit garçon, etc., d'ailleurs, c'est un vrai petit mec. »
Tout à fait. Et même après, il y a beaucoup de filles, par exemple, qui, lors de la puberté, ils vont avoir, en fait, une poussée de testostérone importante et ils vont être immédiatement traités, en fait, avec des estrogènes ou avec l'androcure, donc avec vraiment, pour le coup, en fait, la substance pharmacologique qu'on donne aux femmes transsexuelles pour justement contrer les effets soi-disant de la testostérone parce que sinon elles seront virilisées. Donc la question c'est qu'en fait la vie, les corps vivants sont dans une multiplicité radicale qu'on ne peut pas réduire à la masculinité et la féminité parce que ça c'est uniquement pensé dans cette idée établir un rapport des causes à effet et un rapport immédiat et un lien comme ça unidirectionnel entre sexe et reproduction et donc sexe hétérosexuel et reproduction. Mais on sait qu'à partir des années 70-80 avec l'utilisation pharmacologique massive des pilules anticonceptives, bah aujourd'hui sexe n'égale pas exactement reproduction. Donc peut-être en fait ce qu'on appelait dans le 19e l'hétérosexualité, bah peut-être elle n'existait plus en fait. En réalité, ce qu'il y en a, c'est une hétérosexualité, ce que j'appelle pharmacopornographique, mais pas du tout l'hétérosexualité telle qu'on l'a imaginée.
Un autre argument, une question que je me pose, moi aussi je trouve que c'est souhaitable un monde où ça n'aurait absolument plus aucune importance politique, ni l'apparence de nos corps, ni, où le genre n'a même pas de pertinence, ou la forme de nos organes génitaux, etc. À la fois, je me dis, comment est-ce qu'on fait pour continuer à mener des combats politiques, si on dit que toutes ces catégories-là, ce sont des fictions, quoi. Je me dis, comme les catégories femmes, hommes, homosexuels, hétérosexuels et tout, ça n'existe pas.
Non, c'est pas qu'elles n'existaient pas.
Ça existe.
Attention.
Voilà, c'est OK.
Attention. On dit pas du tout qu'elles n'existaient pas. Elles existent même, en fait, elles sont, si vous voulez, en fait, ils sont une matérialité biopolitique. C'est-à-dire qu'elles existent, y compris dans les corps.
OK.
Et qu'elles existent comme un système de reconnaissance scientifiques et politiques, et donc elles sont réelles. Mais quand on dit qu'elles sont des fictions politiques, on dit qu'elles ont été fabriquées tout au long de l'histoire. La question, c'est que précisément parce qu'elles ont été fabriquées et qu'elles produisent beaucoup d'inégalités, beaucoup de violences...
Et des faits, en fait, ça a des effets très, très concrets, très
matériels. Exactement, très
matériels,
mais ces effets, en fait, souvent, les résultats de ces effets, de ces relations, en fait, c'est vraiment des pouvoirs, c'est l'établissement d'un régime des pouvoirs. Donc, si on veut lutter contre ce régime des pouvoirs, il va falloir quelque part, en fait, si vous voulez, défaire cette fiction politique et construire des nouvelles fictions politiques collectivement. La question, c'est pas en fait dire, bon voilà, il y aura plus de tout, des genres. Bon, peut-être que la question, c'est dire, bon, bah, et qu'est-ce qui se passe, en fait, si au lieu de penser à un système binaire en termes des genres, si on s'est dit en fait qu'il y a 10, 15 genres, comment ça changerait les réels? Comment seront les institutions éducatives pour un système qui a 10 genres? Comment seront en fait les institutions, qu'est-ce qu'on ferait de la prison, de l'hôpital, de l'institution psychiatrique?
De l'Assemblée nationale.
L'Assemblée nationale, de l'idée en fait des quotas, de l'idée. Voilà.
Donc on peut faire les deux ensemble, quoi. Mais...
Il faut de toute façon absolument faire les deux ensemble. La question, en fait, c'est qu'il faudrait, si vous voulez, pour moi, j'appelle à une alliance transversale des luttes somatopolitiques. C'est-à-dire, ne pas mettre au centre les femmes pour le féminisme, les noirs pour la lutte des noirs, les handicapés pour l'handicap, mais plutôt dire, en fait, pensons à notre statut des corps vivants à tous, et on va établir des alliances transversales des corps dissidents.
De tous ceux qui ne sont pas reconnus comme étant des citoyens à part entière.
Exactement, exactement. Et donc, une lutte dans lesquels, en fait, on va plutôt penser aux relations et aux alliances qu'aux replis identitaires, en fait, de chaque identité.
Bon, mais parfait, je trouve que ça répond très bien à la critique que j'ai entendue aussi dans les milieux féministes contre le féminisme queer, qui disait, mais ok, si on abolit les étiquettes, ça abolit pas le problème, en fait.
Non, mais c'est pas...
Est-ce que, quand mais personne ne dit vraiment
non,
ça,
quand
en
je parle des... Non, parce que pour moi, en fait, c'est même pas des étiquettes, en fait. Pour moi, c'est un ensemble de techniques de normalisation. C'est pas du tout, en fait, la masculinité et la féminité, c'est pas des étiquettes. C'est-à-dire, sont des techniques d'inscription du genre. Et ces techniques, ils vont des systèmes de reconnaissance à la naissance, ils vont à chaque fois que vous mettez les pieds dans une institution, il y a un acte de reconnaissance et à partir de là, un ensemble de techniques qui se mettent en place. Donc ce qu'il faut faire, c'est des contre-technologies des pouvoirs, inventer des autres techniques. On ne peut pas dire simplement, bah voilà, on défait tous les genres et après, bah non, on va inventer peut-être justement ce que j'appelle en fait des techniques de subjectivation dissidente. C'est-à-dire, en fait, résister à cette technique normalisante. Je pense, en fait, la question, c'est que peut-être... C'est pour ça que j'ai fait appel à la science-fiction, que j'aime tellement la littérature,
oui,
la fiction.
Oui, parce que c'est tellement dans le futur et tout. Pour l'instant, c'est difficile à imaginer,
c'est pas
mais...
que c'est tellement dans le futur.
Ah.
C'est totalement là. C'est là que ça se passe. Pour moi, en fait, ça, c'est très important. Il faut affirmer qu'il y a une révolution. Maintenant, c'est là que ça se passe. On est en train de vivre une grande révolution planétaire, une révolution, un changement de paradigme total, et c'est là que ça se passe. Je pense qu'on est en train de vivre un des moments historiques les plus complexes et les plus fascinants de l'histoire. Et donc, c'est pas pour demain. Par contre, il faut faire appel à l'utopie, à l'imaginaire, il faut faire appel justement à la fiction.
Aux artistes, aux écrivains.
Exactement. Pourquoi ? Parce qu'il faut absolument arriver à défaire les carcans de cette épistémologie normative.
Il y a une des attitudes, parce que je voudrais revenir sur ce que vous avez dit sur l'histoire de se désidentifier quand on est un homme, de dire mais moi je ne veux plus en fait appartenir à ça, mais est-ce qu'il suffit de le dire pour que ça fonctionne? Je pense par exemple, je ne sais pas du tout quoi penser de cet épisode-là, ça me laisse un peu perplexe, c'est pour ça que je vais vous demander votre avis là-dessus. C'est la question de la non-binarité, des gens qui se disent non-binaires. Oui. Donc là, il y a un sondage qui est paru, qui a été fait par le magazine L'Obs, qui dit qu'il y a 14% des gens en France de 18 à 44 ans qui se définissent comme non-binaires. Et il y a eu une scène, un dialogue qui a été tourné en dérision sur Twitter, beaucoup. C'était dans l'émission Arrêt sur image. Donc il y avait quatre invités. Et parmi ces invités, il y a une personne donc, qui s'appelle Arnaud Gauthier Favas, qui est administrateur de l'intérêt LGBT, qui organise la Marche des Fiertés. Et lui, il était très très mécontent, parce que l'un des deux présentateurs disait « mais il n'y a que des hommes sur ce plateau ». Donc je précise, parce que c'était une vidéo, donc l'apparence de cette personne, elle a une barbe, un début de calvitie, la peau claire, un pull, etc. Et voilà ce qu'il dit au présentateur.
Non mais moi je suis ici, non mais attendez, les vieux réflexes sexistes...
Je ne suis pas un homme, monsieur.
Vous n'êtes pas un homme,
pardon. Ah non. Non, je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme.
Votre apparence?
Ah bon? Ah bah, il ne faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir.
Alors, expliquez-moi.
Non, je suis non-binaire, donc ni masculin, ni féminin,
comment
et je refuse qu'on me genre comme un homme.
Comment vous définissez-vous?
Comme non-binaire.
Comme non-binaire?
Oui.
Et il lui dit, c'est me mégenrer, c'est vraiment désagréable, etc. Et un peu plus tard dans la conversation, le présentateur dit, bon, et tout le monde est blanc sur ce plateau. Et pareil, la même personne réagit et dit, non, mais je ne suis pas blanc. Donc d'accord, il s'est défini comme non-binaire, etc. Mais je me demande de comment cet outil-là, ça peut être complètement retourné, en fait. Parce qu'il dit ça, mais à la fois, on se dit, bah, vu son apparence et tout, il bénéficie quand même de tous les privilèges qui vont avec son apparence.
Bah, bénéficier de tous les privilèges voudrait dire, en fait, qu'il s'était totalement, en fait. C'est-à-dire que les privilèges, souvent, c'est être vraiment... dans les lieux de l'universalité. Justement, ne pas être visible en tant qu'autre, ne pas être altérissé. Donc, à partir du moment où constamment, imaginez en fait que constamment, tous les jours, lui, il dit, ou elle dit, ou la personne non-binaire dit, bah non, moi, je ne suis pas un homme, moi, je ne suis pas blanc, bah, du coup, quelque part, il est en train de troubler les systèmes de reconnaissance. Effectivement, il a, par contre, ou elle ou l'autre, en fait, a la possibilité de se situer soit dans la position normative, soit ailleurs, alors que, par exemple, pour une personne qui est racialisée à cause de la couleur de sa peau, et cette personne n'a pas les choix, est racialisée tous les jours, et donc des coups, effectivement, et dans un rapport extrêmement...
Donc plus contrôlé par la police, il se voit refuser des emplois ou un logement, etc.
Mais imaginez, moi je trouve que ça peut être une stratégie intéressante, parce que imaginez en fait que toutes les personnes qui soi-disant ont la peau claire, commençaient par dire « non, non, mais moi je ne suis pas blanc ». Qu'est-ce que ça veut dire en fait, en permanence? Donc je pense que pour moi la question c'est pas... c'est si cette énonciation, elle est accompagnée de tout un ensemble des pratiques de résistance. Si c'est quelqu'un, effectivement, si une personne, c'est pas absolument hétérocentrée, voilà, qui va dire « moi, je suis pas blanc, je suis pas... Enfin, » Souvent, on entend ça qu'en avant, on entendait parler de l'humanisme, et la personne
te dit... C'est ça, c'est-à-dire la personne dit « mais pourquoi ? Pourquoi t'arrêtes pas à me dire que je suis blanc, je suis pas blanc, je suis un être humain, ouais. et je suis un citoyen du monde, et je suis un humaniste, et tout. » Et c'est aussi un truc qu'on entend, que moi, j'ai entendu, j'ai reçu des courriers comme ça aussi, ou même dans les conversations d'hommes, cisgenres, hétéros, qui vont me dire mais c'est tellement violent, pourquoi t'arrêtes pas de me dire que je fais partie du groupe des hommes qui bénéficient des effets du viol, etc. C'est pas vrai, j'en fais pas partie. Et donc je me dis, comment est-ce qu'on fait pour se désidentifier, comme ce que vous proposiez tout à l'heure, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Et est-ce qu'il suffit de le dire pour que ça arrive?
Non, mais je pense que parfois la désidentification passe par la reconnaissance de sa position de pouvoir. C'est-à-dire que parfois, il faut dire, moi par exemple, j'étais très conscient que malgré le fait que j'avais un passeport dans lequel je n'étais pas reconnu en tant qu'homme alors que mon corps était en train de changer, néanmoins c'était quand même un passeport européen. Donc je voyais bien en fait qu'il y avait certains de mes amis qui ne passaient pas et moi je passais. Donc il y avait un privilège. Donc je ne peux pas dire « ah bah non, je ne suis pas européen ». Bah oui, bah écoute, j'ai un passeport qui me donne un certain nombre de privilèges. Et donc du coup, la question c'est peut-être il faudrait commencer justement par reconnaître ces privilèges-là, pour se dire, comme vous avez commencé tout à l'heure. Mais je pense que les seuls problèmes de ça, si vous voulez, c'est que des coups, en fait, cette taxonomie devient une évidence. C'est-à-dire que si vous commencez, comme aujourd'hui, vous m'avez dit, en fait, bon, je suis une femme, cis femme, voilà.
Oui,
vous
m'avez dit... hétéro, j'ai même commencé l'émission, voilà, le tout début du podcast, en disant, voilà,
question...
je suis une classe bourgeoise, je suis blanche, européenne, etc. Bon, ça, je reconnais ça, mais ça ne veut pas dire que je suis ça comme identité. Mais...
Oui, je comprends, mais la question, et moi, je trouve que c'est tout... votre honneur, et c'est très bien. Mais la question, c'est que aussi, à un moment donné, en fait, qu'est-ce qui se passe quand vous commencez à douter de cette position-là? C'est-à-dire que peut-être, en fait, peut-être vous n'êtes pas aussi hétéro que vous imaginez.
Ouais, peut-être
vous n'êtes pas... Et si demain, vous savez, c'est pas, si vous commencez en fait à trop traîner avec moi et qu'il y a trop de testostérone autour et que vous dites, écoute, je vais bien en prendre un peu, mais... C'est-à-dire,
oui, c'est ce que vous racontez aussi dans Testo Junkie et dans les chroniques. En plus, il y a bien marqué sur les notices, genre surtout...
Ne s'approche pas.
Ne vous approchez pas. Parce qu'en fait, c'est une substance qu'on étale sur la peau.
Qui passe à travers la peau, exactement.
Et donc, sur la notice de la testostérone, c'est dit surtout ne le mettez pas en contact avec des femmes, etc.
Exactement.
Donc oui, bien sûr, ce n'est pas une certitude.
Non, mais la question, c'est que... Ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, l'énonciation est une des pratiques...
De rébellion ou de subversion.
Ça peut être une des pratiques, en fait, soit des auto-affirmations, soit des résistances, soit des luttes, des rébellions, une des pratiques. Mais il y a une multiplicité des pratiques. Donc si vous me dites, bon, il y a quelqu'un qui dit, moi je suis pas blanc, mais il est super blanc, et après toutes ces pratiques sont des ultra-blancs, bah moi je dis, écoute, ton énonciation, garde-la, parce que ça m'intéresse pas. Après, en fait, si effectivement, dans sa pratique, il y a une telle, en fait, un tel devenir noir dans sa pratique, ou une telle mise en cause, en fait, de la différence raciale, bah peut-être, justement, ça devient, justement, une technologie des soi, une technologie, une fabrication totale de sa subjectivité. Et il faut commencer à le faire.
Et donc, même chose pour le genre, en fait. Si
absolument.
Un homme qui était identifié comme cisgenre, hétérosexuel, etc., dit « mais je veux me désidentifier, je ne suis pas un homme
». Un homme dit « je ne suis pas un homme hétérosexuel, cisgenre », à partir de ce moment-là, ça met en jeu, pas simplement les lieux d'énonciation politique, mais par exemple, en fait, toutes ces pratiques des désirs et des relations. Parce que s'il n'est pas un homme, bon, à ce moment-là, peut-être il est très ouvert aussi à coucher avec d'autres hommes qui ne sont pas identifiés en tant qu'hommes, ou il ne va pas être dans un rapport, dans une chorégraphie sexuelle, hétérosexuelle, etc. Donc il y a un certain nombre de pratiques politiques, des techniques, des contre-fabrication des subjectivités qui vont venir avec. Après, si c'est simplement une énonciation...
Comme une posture, quoi. Comme un truc pour éviter d'être accusé. Aussi parce que c'est l'horreur. J'entends aussi les hommes qui, par exemple, écoutent l'émission, qui ensuite m'écrivent en me disant « Mais ça me fait horreur tout ce que vous décrivez. J'ai pas envie d'appartenir à cette classe-là, au sens de,
de
sexe.
Bah, » Commencer un mouvement, mais un mouvement que ce soit pas simplement, en fait, une parole, donc une prise de position par l'énonciation, mais un ensemble des pratiques, des résistances et des identifications constantes. Évidemment, donc une déconstruction des rapports du pouvoir.
Paul B. Preciado, pour terminer, est-ce qu'il y a une œuvre artistique, ou pour le dire en vos termes, une fabrication historique de l'esprit? Parce que vous dites aussi dans vos textes qu'on peut tomber fou amoureux d'œuvres, en fait, de fabrication historique de l'esprit, et comme on peut tomber fou amoureux d'une ville, par exemple. Donc, quelle est cette fabrication historique de l'esprit que vous souhaitez recommander aux auditrices?
Bon, il y en a tellement, mais... Parce qu'en fait, justement, parce que la culture queer, la culture lesbienne, trans, parfois, elle est très invisible socialement et politiquement. Néanmoins, en fait, elle a une grande capacité... c'est comme un monde de la fantaisie, en fait. C'est vraiment... ça existe parfois qui est dans l'imagination, dans l'imaginaire. Bon, je sais pas, je voulais... j'avais pensé, en fait, que je voudrais recommander effectivement les livres d'Angela Davis, tous les livres d'Angela Davis, parce que pour moi, ils
sont... Vous l'avez eu comme prof, en plus, non?
Je l'ai eu... elle enseignait plutôt en Californie, alors que j'étais à New York, mais je suis allé souvent, en fait, à ses cours, à ses classes, en fait, et c'est quelqu'un d'absolument extraordinaire, et je pense que... Voilà, je pense qu'elle a changé ma vie, comme Virginie Despentes a changé la vôtre, on va dire, quelque chose comme ça, mais elle est tellement nécessaire, la relire aujourd'hui, c'est tellement nécessaire. Mais après, sinon, je voulais peut-être recommander... Pour la plus jeune génération que peut-être a jamais vu ça, en fait, un film transpunk des années 90 qui s'appelait Dandy Dust, Hans Schreil. Dandy Dust. Et c'est extraordinaire. C'est en fait à peu près comment faire l'amour avec les objets, avec les meubles. Voilà. Donc, sortir un peu, en fait, aussi des... Il faut arrêter, en fait, avec autant d'humanité. Voilà.
Merci infiniment, Paul B. Preciado. Merci beaucoup pour cette conversation.
Merci à vous.
Bon, moi, je vous invite aussi à lire les livres de Paul B. Preciado, et notamment ce recueil de chroniques, Un appartement sur Uranus, pour ses réflexions profondes et révolutionnaires, et notamment sur un thème qu'on n'a pas tellement développé ici, mais qui est très important, sur la façon dont nos États traitent ceux qu'il appelle les migrants. Les Couilles sur la table, c'est un podcast produit par Binge Audio. On en produit 25 autres sur plein de sujets différents et passionnants. Je vous conseille notamment Miroir Miroir sur les questions d'apparence, Kif Taras sur les questions raciales, et Programme B, notre programme d'actualité quotidien. Vous allez apprendre plein de choses. Pour nous écrire, l'adresse c'est toujours lescouillessurlatable@binge.audio. Je vous lis toujours avec attention, vos messages me font grand plaisir, et aussi tout ce que vous postez sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Merci beaucoup à Quentin Bresson pour la prise de son et à la réalisation. Merci à Camille Regage pour le travail d'édition et à David Garzon, le directeur de la rédaction. Ciao.
Binge.
Salut, c'est Victoire Tuaillon du Cœur sur la table et des Couilles sur la table. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 000 lieues sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie quand elles étaient ados. À l'époque, elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire personnelle, Caroline Potier, qui est devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment mieux écouter les survivantes et les survivants d'inceste? Comment la police et la justice pourraient enfin mieux les traiter? Comment vivre avec? Et les agresseurs? Qu'est-ce qu'on en fait des agresseurs? Ce documentaire est beau, est intelligent, est bouleversant, et je pèse mes mots, il est d'utilité publique. Car en France, vous le savez sans doute, une personne sur 10 est victime d'inceste. Ça veut dire que nous sommes tous concernés dans notre métier ou dans nos relations personnelles. Dans cette série, vous apprendrez donc ce que nous pourrions tous et toutes faire si on veut un jour enfin éradiquer l'inceste. Alors pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair,
dans le podcast « Le cœur sur la table ».
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.